Et pendant que Yarnal reprend son souffle après avoir fait son exercice du début d'après-midi, de l'année, je vais vous présenter pendant ce temps-là nos intervenants donc pour cette table ronde qui s'intitule En attendant la fin du monde, avec Rosamond Perrault, l'auteur de Des larmes sous la pluie aux éditions Métayer. Qui est un roman de science-fiction qui se passe en l'an 2000, dans le Madrid de l'an 2109. Nous avons Paolo Bacigalupi, qui est l'auteur de La fille automate, Grand Prix de l'imaginaire 2013, et de cet autre roman qui est orienté légèrement plus pour la jeunesse, qui s'intitule Ferrailleurs des mers. Donc, Yael Ayerdal, ici présent, pour ce très beau roman qui s'appelle Rainbow Warriors. J'ai oublié de préciser, ces trois romans sont publiés aux éditions du Diable Vauvert. Et Natacha Vazderes, elle aussi Grand Prix d'imaginaire dans la catégorie essai, pour justement ce livre d'études qui s'intitule Ces Français qui ont écrit demain sur utopie, anticipation et science-fiction au XXe siècle. Et donc, pour rentrer tout de suite, je dirais dans le vif du sujet, moi la première chose à laquelle j'ai pensé quand on m'a donné le titre de cette table ronde, c'était une anthologie de nouvelles de science-fiction de Jacques Sternberg, qui est un monsieur un peu oublié aujourd'hui, mais qui fut l'un des artisans du développement de la science-fiction en France, et qui avait publié au début des années 70 un recueil de nouvelles au titre absolument magnifique, Futur au pluriel sans avenir, donc qui était tout à fait dans l'état d'esprit qu'un certain nombre d'auteurs de science-fiction aujourd'hui encore ont, et qui est quelque part, me semble-t-il, un état d'esprit très français. Et je vais peut-être commencer par demander à Natacha Vazderes, qui est une spécialiste donc de l'histoire de la science-fiction en France, de nous parler un peu de cet aspect de pessimisme où effectivement un grand nombre d'auteurs en France depuis des années, ben, ils attendent la fin du monde et ils l'annoncent.
Oui, effectivement, chez les auteurs français et ceux depuis, je dirais, le milieu quasiment du XIXe siècle, peut-être encore plus évidemment après la Première Guerre mondiale, donc en 1918, mais même avant, il y a des marqueurs, je dirais, de pessimisme extrêmement, extrêmement précis. Et alors, sur la fin du monde, sur ce thème de la fin du monde, je dirais qu'il faudrait parler de dystopie de la fin du monde. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une dystopie de la fin du monde? Tout simplement, c'est un récit d'anticipation négatif. C'est-à-dire, les auteurs développent une réflexion, finalement, sur la cohésion d'une société dont les bases sociales sont détruites. Ce qu'on appelle aussi aujourd'hui le post-apocalyptique. C'est-à-dire qu'on décrit, on décrit pas forcément l'apocalypse, mais on décrit une société. Comment une société, finalement, comment les survivants arrivent à gérer, finalement, cette vie, cette survie, après, alors peut-être pas la fin du monde, mais au moins après une partie de la destruction de l'humanité. Alors, pour vous donner quelques petites dates, quand même, par exemple, en 1840, ce sont les premières anti-utopies qui apparaissent en France, avec, par exemple, Émile Souvestre, Le monde tel qu'il sera en 1840. Et vous avez également Flammarion, par exemple, avec La fin du monde, évidemment, bien nommé. Alors, La fin du monde de Flammarion, donc en 1895, a la particularité de nous proposer, finalement, je dirais, diverses visions de la fin de l'humanité. Donc c'est, par exemple, comment l'humanité va périr de froid, comment l'humanité va périr de soif, le manque d'eau, ce qui sera par exemple repris par Romy Aîné dans La mort de la Terre, donc en 1910. Autre par exemple grand, je dirais peut-être des auteurs un peu oubliés, mais qui sont vraiment, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, des marqueurs de cette fin du monde. Vous avez par exemple Ernest Perrochon, qui était un écrivain de terroir, mais qui a fait une ultime, je dirais, incursion dans la SF l'imaginaire en 1925 avec Les hommes frénétiques, ou encore José Moseli, toujours en 1925. Et puis, vous avez par exemple Régis Messac en 1935, qui a écrit un roman qui a été récemment réédité, qui s'appelle Queen's Azazeli, et qui montre eh bien, la fin de l'humanité par une sorte d'avatar de la bombe atomique en 1935. Évidemment, c'est encore un petit peu trop tôt. Et puis, évidemment, comment ne pas citer Barjavel en 1942 avec Ravage, ou encore en 1948 avec Le Diable en porte, où là, c'est effectivement complètement la destruction de la planète. Voilà. Je terminerai simplement en disant qu'à mon avis, il y a deux lignes de force dans la littérature française. Première ligne de force, c'est amener la logique finalement d'une société à son terme. Alors la logique économique et politique, je pense par exemple au Faust de Serge Lehmann, ou encore décrire le type d'apocalypse. Donc ça peut être une apocalypse, une dégradation progressive finalement de nos sociétés, une guerre, une destruction par la pollution, et donc qui nous amène à un contexte post-apocalyptique. Voilà, donc c'est très très... j'ai fait référence à des auteurs un peu anciens, justement pour laisser la possibilité à nos auteurs de parler du contexte contemporain. Et comment voit-il la fin du monde?
Merci Natacha pour cet exposé. Alors ça me permet comme ça de rebondir déjà peut-être en m'adressant d'abord à Rosa Montero, qui, dans Des larmes sous la pluie, nous décrit donc cette société d'un futur qui est quand même relativement proche, parce que 2109, c'est pas si loin que ça, et qui est une société, effectivement, où il me semble que toutes les choses mauvaises de notre époque ont continué, se sont exacerbées. C'est entre autres le racisme qui est extrêmement fort à l'égard des réplicants qui existent, c'est-à-dire ces êtres humains qui sont créés en laboratoire pour servir l'homme, pour reprendre un titre là de Demon Knight. Donc où il y a aussi ce fossé entre riches et pauvres qui s'est extrêmement accentué, et où certains groupes essayent d'amener la fin de ce monde particulier. Je pense entre autres aux groupes activistes des deux stations spatiales extrêmement radicales, l'une du point de vue technologique et l'autre d'un point de vue religieux. Donc Rosa, si vous pouvez peut-être nous développer un petit peu cette conception que vous avez, cette attente de la fin d'un monde.
Merci, Jean-Luc. Premièrement, je veux remercier tous ceux qui sont ici dans ce petit final du monde, que c'est la finale de nos festivals. Vous savez, venez pour le voir. C'est que je ne pense pas, en fait, que mon livre, qu'il y a un portrait négatif du monde et non plus un portrait positif. Je crois que mon livre, c'est, je prie 12 romans et seulement 2 de ces science-fiction, et ce livre, je crois que c'est le plus réaliste que je crée. Et donc, je crois que c'est un portrait du monde très parallèle à celle-ci que nous avons. J'ai essayé de relever tout le problème que nous avons maintenant pour faire une réalité qui peut être possible. Mais il n'est pas seulement mauvais, il y a aussi de bonnes choses. Par exemple, le monde est réuni dans une seule organisation politique, et c'est aux États-Unis du monde. Je crois que ça se vient parce qu'on a superé les nationalismes qu'on fait, le petit nationalisme qu'on fait au monde des carnages pendant l'histoire, n'est-ce pas? Si tu raconterais un homme européen dans 1910, ce que le 20e siècle serait, il serait horrifié. Il le dit, on aura de grandes guerres, on aura le nazisme, on aura la bombe atomique et tout ça. Non? Et il dirait, oh, ça c'est bon, c'est la fin du monde, n'est-ce pas? C'est l'apocalypse. Mais le 21e siècle, il a eu aussi beaucoup d'avantages. Pendant le 21e siècle, plus d'une centaine de pays ont entré dans la démocratie ou en train d'entrer dans la démocratie. Nous avons eu la révolution du sexe. Nous avons commencé à comprendre le problème écologiste. Nous avons reconnu la différence de petits groupes, beaucoup d'avantages aussi, n'est-ce pas? Et pour moi, le monde rencontre que je fais dans le 2109, l'artiste de 2109, à tout ça, le bon chemin de l'humain, de l'homme, pardon, et le mauvais aussi. C'est sûr qu'il a une côté politique, mais je crois qu'en fait que la plupart de la science-fiction a un côté social ou politique. Non? Mais ce n'est pas un côté de dire oh, tout ce noir, tout ce terrible, le pauvre et le riche, on les excède depuis la caverne. Depuis la caverne, non? J'ai essayé de parler de la condition humaine. Et je crois que j'ai un peu d'espoir à la fin du livre. Je crois que ce que je dis, c'est que si on lutte pour faire de ce monde un peu plus mieux, on réussit de faire le monde un peu plus mieux.
Merci Rosa, parce que vous avez déjà devancé ce sur quoi j'allais ensuite enchaîner quand on aura fait ce premier tour pour examiner la manière dont chacun d'entre vous ici envisage le futur. Donc, je vais me tourner maintenant vers Paolo Bacigalupi, qui, dans ses deux romans, que ce soit La fille automate ou Ferrailleur des mers, envisage là aussi un monde d'un futur qui est extrêmement proche. Dans les deux cas, ravagé par la pollution, par le réchauffement climatique, ce sont des mondes dans lesquels les eaux montent inexorablement et noient toute une partie des grandes villes, etc., où l'économie est complètement chamboulée et où aussi le fossé qui existe et qui se creuse de plus en plus entre les hyper-riches d'un côté et le reste des populations qui, elles, s'appauvrissent de plus en plus, c'est aussi creusé encore plus. Donc, Paolo, vous aussi, vous voyez un futur, quelque part, qui est assez, assez noir par rapport à ce que nous vivons à l'heure actuelle.
Is this one? Hello? Okay. I do tend to write fairly pessimistic futures.
J'ai vraiment tendance à écrire à propos de futur très pessimiste.
And that, a lot of times that just comes from my anxieties. I worry that certain trends are going to become the dominant trends.
Mais ça vient aussi du fait que je suis quelqu'un d'anxieux et que c'est quand je vois notre présent, c'est l'avenir. Je ne peux pas m'empêcher de voir quel serait notre avenir si nous continuions dans la même direction.
I think in my ideal, I turn out to be wrong about everything.
Dans mes idées, dans mes idéaux, à chaque fois que j'y réfléchis, je ne trouve que des réactions, des situations vraiment terribles.
But when I'm looking at big general trends, like in the United States, that the very small percentage of rich people is getting richer while the broader population is getting poorer.
Mais de plus, quand je vois le fossé entre les très riches américains et les plus pauvres qui deviennent de plus en plus pauvres.
Or when I look at an ecosystem and see how it's unraveling, how different species are disappearing, and how the whole sort of weaving of the ecosystem is sort of coming apart.
Et quand je vois notre écosystème, la manière dont il est détruit, la manière dont tant d'espèces disparaissent.
Or when I look at the fact that we in America can't even understand that global warming exists, let alone face the expensive proposition of doing something about it.
Quand je vois que les politiciens et les Américains refusent de croire au réchauffement climatique et donc d'envisager la moindre solution, la moindre idée pour empêcher les catastrophes qui y sont associées.
And knowing that our decisions that are happening locally in the United United States are going to have a global impact.
Et quand je vois que les décisions que nous prenons, justement, les croyances que les Américains ont, risquent de devenir virales, de prendre, d'avoir une influence sur le reste du monde.
When I look at all of that and just sort of try to think about what a reasonable future is, suddenly those futures become very broken indeed.
Et quand je vois tout cela et que j'y réfléchis, je me dis que oui, le futur de cette société ne pourra être que angoissant et brisé.
And so I have arguments with some science fiction friends who also write different versions of the future.
Et j'ai souvent des disputes avec d'autres auteurs de science-fiction qui ont une vision différente de l'avenir.
Where they assume that human technological ingenuity will fix the problems or will save us from ourselves.
Qui imagine que le génie américain va nous sauver en réagissant comme il faut et en changeant les choses pour que notre avenir soit meilleur.
And I really want them to be right, but so far I'm not really seeing that happening.
Et j'aimerais vraiment bien qu'ils aient raison, mais j'arrive pas vraiment à le voir de cette manière.
Ah, justement, Yann Ayerdal, il me semble que vous, avec Rainbow Warriors, vous prenez le contre-pied de tout ça, vous êtes résolument optimiste. Quand on lit Rainbow Warriors, vous créez une utopie qui est certes la dystopie de certains autres. Je pense que Brigitte Bardot, si elle lit votre livre, aura une crise cardiaque avant la page 50, puisque dans ce cas, là, on a des activistes qui n'attendent pas la fin du monde, ils provoquent la fin d'un monde, celui d'un petit pays africain particulièrement réactionnaire et répugnant, et qui malheureusement, sur lequel on n'a pas besoin de se forcer pour mettre un certain nombre de noms. Moi, je me suis amusé, j'en ai trouvé au moins trois qui pouvaient y répondre, dont un qui était enclavé. Mais, et là, il y a de l'eau. Mais donc, vous êtes résolument optimiste, vous pensez que les gens sont capables de se regrouper et de changer les choses.
C'est vraiment un choix que j'ai fait. Je suis quelqu'un de fondamentalement optimiste. Je crois réellement que si on y va, j'ai dit je crois, j'ai pas dit je pense. Ça fait. Vous voyez la différence là, il y a un petit aspect, non pas religieux, mais allez, si on y va, si on a vraiment envie de se bouger les fesses, si on a vraiment envie d'apporter quelque chose, on peut le faire. Et tous mes romans précédents étaient plutôt on va dire négativiste, pas no way, no hope, no future. Alors je ne suis pas de la génération punk, je suis de la génération d'avant, moi je suis de la génération hippie avec les fleurs, flower power, etc., etc. Mais petit à petit j'ai vu ce monde basculer, j'ai vu. Et puis pendant très longtemps je me suis contenté de dire ben voilà ce qui ne va pas et voilà comment on va dans le mur. Et là j'ai eu une envie, vraiment, de dire ben il n'y a pas que le mur. On peut faire autre chose, on peut y aller autrement. Et puis, parfois, je fais œuvre de fiction, donc j'ai le droit de dire ça va bien se terminer.
Juste à lire dans Demain une oasis, il y a quelques années, vous aviez déjà cette position, puisque Ayerdal, dans Demain une oasis, envisage finalement que toute une partie de l'Afrique de l'Ouest sera terraformée, comme on pourrait terraformer une planète dans la science-fiction. Et il appliquait cette méthode justement à l'Afrique qui devenait complètement, enfin une partie devenait verte alors qu'elle était totalement désertique. Donc déjà dans ce roman il y avait quand même une vision, moi je trouve très, très optimiste, très alternative finalement. C'est plus la fin du monde du tout, mais c'est dans une utopie.
En fait j'ai jamais eu le courage de commettre une utopie jusqu'au bout, ça qui se termine bien. Parce qu'on monte des systèmes, je l'ai fait dans Demain une oasis, je l'ai fait dans Chronique d'un rêve enclavé, je l'ai refait encore dans Rainbow Warriors, mais ce qui m'intéresse, c'est comment ça va fonctionner, tout ça, c'est bien, on va vers, on a un élan magnifique, on crée quelque chose, et puis en face, finalement, il y a des gens qui ont des gros temples, des gros chars, des grosses des missiles, et puis comment ça a fonctionné. Et toujours j'ai répondu, ben oui, au bout d'un moment, on va se faire effondrer. C'est l'histoire de la Commune de Paris, quoi. Grosso modo, que je répète assez régulièrement, par l'intermédiaire de mes bouquins. Il y a un élan fabuleux, et tout le monde va dans le même sens, sauf celui qui possède les armes, celui qui a les canons, celui qui, à un moment donné, met un terme à... Je commence un petit peu avec Rainbow Warriors à dire, il n'y a pas que ça, il faut aller voir un petit peu plus loin. Mais mon prochain projet, c'est d'amener une utopie jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'elle ne s'effondre pas. Je ne dis pas comment, je flippe d'écrire ça.
En même temps, un Rainbow Warriors, quand même, pour reprendre à ce que vous pouvez dire, si à un moment ils gagnent, c'est parce que grâce à leur créativité, l'armée LGBT a une meilleure, a de meilleures armes, de meilleurs canons et de meilleures meilleure stratégie que celle du dictateur en face, quelque part.
Encore une fois, j'ai essayé d'être réaliste. Donc, qu'est-ce qui fonctionne quand on se révolte, ben c'est à un moment donné, au moins d'être à égalité techniquement, technologiquement avec l'armée qui est en face. Et puis, ben, en l'occurrence, dans Rainbow Warriors, dans la première période, ben, en plus, on est au-dessus techniquement, donc tout va bien. Mais on commence à peine à se poser des questions à ce moment-là.
Justement, alors, là, les réflexions que vous venez de faire me ramènent au second axe qu'avait déjà évoqué Rosa Montero dans sa première réponse, c'est-à-dire que lorsqu'on est là en train d'attendre la fin, à mon avis, non pas du monde, mais d'un monde pour passer à autre chose, il reste quand même cette foi, me semble-t-il, chez vous, en la capacité de résistance et d'espoir de l'être humain, quelle que soit son origine. Alors, dans votre roman, c'est très net. D'une part, Bruna, qui est un humain artificiel, qui a cette tête qui vit comme les autres répliquants avec cette terrible épée de Damoclès, elle se réveille tous les matins en sachant qu'il lui reste 24 heures de moins à vivre sur son espérance de vie de 10 ans. C'est-à-dire qu'elle fait partie de gens qui savent ce qu'ils ont eu. À mon avis, l'horreur absolue. Quand est-ce qu'ils vont mourir? Et cela ne l'empêche pas de résister, d'avoir l'espoir d'améliorer les choses. Et c'est vrai aussi des vrais humains, comme son ami archiviste, qui lui aussi, dans ce monde très orwellien, où on modifie la mémoire des archives pour pouvoir, comme ça, réécrire l'histoire dans le sens des racistes qui ont envie de défendre, entre guillemets, les vrais humains contre les réplicants. Là aussi, quel que soit ce qu'il a à faire, il le fait. Donc, vous avez quand même derrière ce qui sauve, c'est cette foi dans l'humain.
Oui, c'est que je suis de plus en plus, lorsque je suis plus âgée, ce n'est pas une foi, c'est une conviction, parce que j'ai appris que les êtres humains, nous sommes incroyables, nous avons une capacité de résistance incroyable, nous pouvons vraiment renaître. C'est pour ça que nous avons, dans les êtres humains, nous avons beaucoup de mythes qui parlent de la Renaissance, comme le phénix et d'autres, parce que ça, c'est nous. On peut vraiment couper tes jambes, et après ça, tu peux te... Ponerte les pieds, comment ça se fait? Se relever, tu peux te relever, tu peux même réinventer une deuxième vie qui peut être mieux même que l'antérieure. C'est pour ça que la capacité de récréation que l'être humain est devenu un virus pour le monde, parce que nous pouvons vraiment presque avec tout. Hier soir, il y a un ancien dit en Espagne qui dit que Dieu ne te donne pas tout ça que tu peux supporter. Parce que tu peux supporter presque tout. C'est vraiment incroyable. Et en plus, je crois que la vie est toujours dans un état critique. Lorsque quelques amis, la vie en général et la vie particulière, lorsque quelqu'un vient et me dit « je suis dans une crise », je ne pas comprendre parce que nous sommes toujours dans une crise. Et la vie, c'est toujours dans une crise. Et l'humanité a traversé de l'apocalypse chaque jour. Chaque jour. Combien d'apocalypse nous avons traversé? Vous savez? Et on peut suivre. Bien sûr que ce n'est pas facile. Bien sûr que c'est terrible, la différence parmi le pouvoir, les gens qui n'ont pas pouvoir et tout ça. Je parle de tout ça dans mon livre. Mais je crois qu'on peut le dire. Et qu'en fait, la cellule, c'est ce que nous fait humain.
Merci, Rosa. Chez vous aussi, Paolo, il y a quelque part cette foi en la capacité de l'humain à espérer, même dans les situations les pires. Et là aussi, comme chez Rosa Montero, quelle que soit l'origine de l'humain, parce que ce soit Enrico, cet automate, c'est-à-dire là aussi, on a affaire à des clones qui sont créés artificiellement et qui sont programmés pour servir leur maître, quels que soient ses désirs, ou dans les ferrailleurs des mers, où il y a des créatures ni hommes ni bêtes donc, qui ont été génétiquement fabriquées, et là aussi pour répondre avec une foi aveugle à tout ce que souhaite leur maître, cela n'empêche pas quand même que face à l'adversité, il y a cette étincelle qui permet à l'être humain de résister. Et c'est aussi le cas, par exemple, de votre héros dans les Ferrailleurs des Mers, Neller, comme c'est l'indique le titre du livre, est un moins que rien, un pauvre parmi des pauvres, qui gratte sa survie au jour le jour en dépeçant les épaves qui sont échouées, et ça n'empêche pas quand même de pouvoir survivre.
I have this huge love affair with the idea of human beings being sort of perfectly defiant.
J'ai une longue histoire d'amour avec cette idée que les êtres humains ont été conçus pour résister et pour changer et avancer.
And I again and again I have characters, I come back to that moment where a character has the opportunity to stand up and to defy authority, to walk away from authority, to play a different game than authority wants it to play.
Et c'est pour ça que j'ai toujours des personnages qui sont prêts à se dresser et à lutter contre l'establishment, contre leur situation et à avancer, et à changer les choses et à s'accrocher.
And I think that's our most optimistic quality. One of the things that I think about when I'm looking around at the world right now is that we have exactly the democracies that we deserve.
Et c'est pas seulement donc leur capacité d'atteindre la liberté, mais ce que je vois aussi, c'est dans toutes nos démocraties que ça n'augure pas, tout ça est raté, ça n'augure vraiment pas bien pour l'avenir.
If we as citizens are asleep, then our government will run amok. Our corporations will run amok, and we deserve that.
Nous avons les démocraties que nous méritons. Si nous dormons, à ce moment-là, si nous ne nous réveillons pas, les gouvernements et les corporations, les entreprises vont faire ce qu'elles veulent et mener le monde. Parce que nous le méritons. Et c'est notre faute.
but there's this, we have this potential within us to make something different, and it was something that y'all was saying that really stood out to me, is that idea that that we can choose, we can make changes, and you see that every once in a while we wake up, and whether it's civil rights or whether it's the Arab Spring, you see moments where people stand up.
Mais je crois aussi, oui, dans cette capacité de l'humain de se redresser, d'essayer de changer les choses. Il y a quelque chose que Ayurveda a dit sur la capacité de l'humain de vraiment résister, changer le monde, etc. Et oui, je suis admiratif et je le vois dans ma vie. Il y a des gens qui ont cette capacité de se lever, de se réveiller et de lutter et de résister pour changer les choses.
I think, especially when I'm writing for young adults, when I was writing Shipbreaker, I wanted to actually have more of a sense of hope and more of a sense of individual empowerment than I do when I write for adults, where I want to maybe frighten adults more and I want to inspire young adults more.
C'est là la différence qu'il y a entre les romans que j'écris pour les jeunes adultes et mes romans purement adultes. C'est que quand j'écris pour les adolescents, je veux leur donner un espoir, je veux leur donner la possibilité de réfléchir et d'éventuellement s'engager pour construire un avenir meilleur. Par contre, oui, quand j'écris pour les adultes, là, je suis d'autant plus pessimiste que ce que je dois faire, c'est faire peur.
I don't quite have the courage to write a utopia because I'm afraid of telling people a comforting bedtime story that's not true.
Alors, j'ai beaucoup de mal avec l'idée d'écrire une utopie. Ça me fait un peu peur parce que pour moi, une utopie, c'est un petit peu la petite histoire qu'on vous raconte le soir avant de vous coucher et qui vous permet de bien dormir.
But with something like Shipbreaker, if I can point to the technology like Clipper ships, where I can make a sustainable technology with wind power that looks beautiful and exciting, and sort of point towards something optimistic and say, hey, maybe this is a better path, that I feel good about.
Et ce qui me fait du bien, ce qui me fait plaisir, c'est de créer, comme je l'ai fait pour faire ailleurs des meurs, des petites lueurs d'espoir, comme je l'ai fait en parlant des clippers, ces énormes bateaux à voile qui sont parfaitement respectueux de l'environnement et en même temps d'être futuriste. C'est un autre chemin, il y a peut-être de bonnes choses dans ce futur-là qu'il faudrait encourager.
Eh bien, Ayardan, vous voulez opiner du chef à un moment. Vous voulez commenter ?
Merci, Fabien. Deux choses. La première, c'est Paolo a écrit le bouquin que j'aurais dû écrire. Avec talent.
Ils sont trop mignons.
On est trop mignons, hein. On est les os de trop mignons. Essayez de traduire ça. Oui, de toute façon, notre problème était à tous les trois, et c'est très clair, c'est qu'on montre le monde et l'humanité, et on essaie de l'amener à réfléchir à défaut de trouver des solutions pour que ça s'améliore parce qu'on n'en a pas. Honnêtement, moi j'essaye d'être optimiste et de me dire je peux écrire une utopie. Franchement, ça fait 25 ans que je veux le faire et j'ai enfin le courage de le faire et je vais me planter, obligatoirement. Rosa se sert de toute sa culture pour montrer à quel point on a un passif qui est très lourd, qui pèse tous les jours, et quelle que soit la façon dont on veut aller en avant, il y a ce machin qui pèse, il y a nos familles, il y a notre histoire, il y a nos amis, il y a toujours des gens qui ont des rapports différents. J'essaye de m'exclure un petit peu de ça, et de dire, ah bah tiens, tout à coup, et si tous mes amis et moi étions d'accord, je vous imagine pas, on est quasiment en 1984 là, hein, voilà. Mais ça serait sympa et pratique et on pourrait y arriver. Paolo a ce talent extraordinaire de montrer à la fois un futur qui est la conséquence de ce que nous sommes en train de faire et de ce que nous faisons depuis très longtemps, et du coup il réfugie la capacité à modifier les choses dans des individus. Ce sont des individus qui, en voulant se changer eux-mêmes, vont apporter quelque chose aux autres. Parfois volontairement, parfois involontairement, parce qu'ils sont entraînés dans une vague.
Oui, justement, les choses changent volontairement, et je vais avoir une question qui va être un peu double à propos de Rainbow Warriors derrière. Bon, d'une part, c'est que vous mettez très en avant donc, la capacité non seulement de résister, mais aussi de réagir. Et il me semble que vous faites l'éloge des gens qui savent tirer parti de la vie difficile qu'ils ont eue en étant opprimés en tant que gays ou lesbiennes, etc., pour l'utiliser au mieux afin de pouvoir changer les choses. Mais d'autre part, et là je vais être très provocant, mais je ne résiste pas connaissant vos idées, il me semble qu'en même temps, vous avez écrit quelque chose qui est extrêmement réactionnaire. Je n'ai pas peur du mot. Parce que, quelque part, qu'est-ce qui finalement assure le succès de cette révolution? C'est le retour, c'est de faire appel au monde africain le plus traditionnel qu'il soit, puisque c'est Nitibi qui est une guérisseuse, et elle est à la fois la guérisseuse des hommes, mais aussi la guérisseuse de la terre. C'est elle qui assure le succès à la fin.
Ah, du coup, ma réponse va être extrêmement simple. C'est vrai qu'en 1947, les Américains et les Anglais ont commencé à expliquer aux Français « Voilà comment il faut faire pour que vous alliez beaucoup mieux et que vous ne soyez plus jamais envahis par le nationalisme. On a suivi ça. Et ça n'a pas fonctionné. On a aujourd'hui un retour totalitaire qui est extrêmement puissant parce qu'on ne peut pas imposer, il me semble en tout cas, une vision qui serait universelle à partir d'une expérience personnelle. Ce que les Américains ont beaucoup tendance à faire depuis 1947 essentiellement, un petit peu avant, si vous n'y avez pas pensé encore, et puis ça a été suivi. On a ce regard mondialiste qui n'est qu'un regard impérialiste sur la façon de définir la démocratie. La démocratie a un sens très précis selon l'ONU, elle a un sens précis aux États-Unis, elle a un sens précis en France, elle a un sens précis en Angleterre. Mais comment cela peut-il fonctionner avec des démocraties plus anciennes, par exemple? On appellera ça la Grèce. L'une des premières démocraties au monde, en tout cas la seule qui a pu se revendiquer en tant que telle, qui ressemble un petit peu à nos structures. C'est-à-dire qu'il est possible d'être démocratique ou démocrate à partir du moment où on peut exploiter les autres. On a un exemple merveilleux en ce moment qui s'appelle la Norvège. La Norvège est un pays dans lequel, globalement, tout le monde se sent bien. Il y a un salaire maximum, c'est le seul pays au monde dans lequel il y a un salaire maximum. Nous, on a des salaires minimums. Ouais. Eux, ils ont un salaire maximum. C'est-à-dire qu'au-delà de ce salaire-là, ben, casse-toi. Tu veux gagner plus que ça, tire-toi, va ailleurs. Que ton cerveau aille alimenter la Suisse, l'Allemagne, les États-Unis, la France, il n'y a aucun problème. Mais de toute façon, il y a un salaire maximum. Donc ça ne peut fonctionner que dans un cadre très particulier avec des règles très strictes. Des règles de... Alors, on pourrait les appeler des règles de bon sens, ou des règles de politesse, ou des règles de, ben, écoute, le vendredi soir, tu as le droit de boire entre 20h et 20h15, et après tu rentres chez toi. Nous, on a besoin de se couvrir le gueule. Donc, on se sentirait un petit peu contraint par ce genre de système. Néanmoins, il fonctionne. Les PDG norvégiens ne quittent pas la Norvège. Ils sont très très bien avec leur salaire maximum, qui leur permet absolument tout. En France, ça serait considéré comme un cadre moyen, pas un cadre moyen comme quelque chose de... Ouais, on n'a que ça, t'as pas d'autre chose à me proposer. Donc c'est une perception qui est à la fois historique et éducative et qui fait qu'à un moment donné, on accepte ou on n'accepte pas de participer. La participation, tu connais ça très bien, hein, c'est le moment où on bascule du franquisme vers la démocratie, je dis vers, et on l'acquiert petit à petit, et puis on la voit rebasculer dans l'autre sens. En ce moment, en Espagne, il y a quelque chose de terrible qui se produit. Tout ce qui a été acquis ces 20 dernières années est en train de disparaître un petit peu.
Bien, c'est que c'est en train de s'apparaître sur l'état du bien-être, L'état de providence, que c'est en train de disparaître dans tout le monde. Je suis désolée de le dire. Et la crise est terrible pour toute l'Europe à l'Espagne, nous avons maintenant une crise plus grande parce que nous avons une situation avec le secteur immobilier et tout ça, tout ça. Mais je crois que c'est une chose qui ne vient pas de celle qui nous disparaît dans ce moment. C'est pas de, il n'y a rien à voir avec le franquisme, mais à voir avec la situation générale de l'économie et de la politique. Parce qu'il y a une crise, pas seulement économique, mais je crois qu'il y a une crise de morale aussi, une crise d'éthique, une crise éthique, n'est-ce pas?
C'était effectivement ce à quoi je voulais en venir. La démocratie, c'est un grand mot qui ne veut pas dire grand-chose. On n'a pas la même définition entre Américains, Canadiens, Anglais, Espagnols, Italiens, Grecs ou Français. On a des règles qu'on considère, on s'estime tous dans une démocratie qu'on essaie de vendre au reste du monde comme étant une valeur principale. Et cette démocratie-là, je suis désolé, je vais franchement leur reprendre le mot démocratie, pouvoir du peuple, mort de rire. Je suis désolé, nous sommes en synarchie ou en oligarchie, mais absolument pas en démocratie. Et on essaie de vendre notre système oligarchique au reste du monde. Quand je dis vendre, on le fait parfois à grands coups de milliards et de guerres et de centaines de milliers de victimes, pour être poli, parce qu'on a une. Allez, on a raison ou pas? On a raison, mais on a raison où? Est-ce qu'on va leur rendre aussi nos pauvres? Non, je fais partie. Non, mais tout va bien et...
Non, je crois vraiment que l'agenda a raison, il y a beaucoup de choses, et je crois que la démocratie, c'est une grave crise, et qu'il est très différent. Il y a beaucoup de démocratie, mais je suis sûre que c'est le moins pire, le moins pire du système. Et un autre, même s'il y a beaucoup de démocratie, tout ça, beaucoup de cultures, je suis aussi très opposée à le relativisme culturel. Ça veut dire que toutes ces personnes qui disent « Oh, tu ne peux pas condamner l'ablation parce que tu ne savais pas rien de la culture. » Non, pardon. Mais il y a deux questions basiques absolument. De droits humains, ils sont absolument universels. Et pour moi, c'est une question qu'on ne peut pas le discuter. Non, on ne peut pas discuter. Et même, ils ont été comme ça depuis toujours. Lorsqu'on avait l'esclavage toujours, pendant même la société esclaviste, il y avait toujours de gens qui avaient dit ça c'est mauvais, on ne doit pas faire ça. Donc je crois qu'il y a des valeurs qui sont absolument universelles, deux, mais très claires.
Merci Rosa. On va peut-être revenir un petit peu parce qu'on a dévié. C'est passionnant ces réflexions, mais c'est aussi un aspect de la science-fiction, justement, de nous faire réfléchir sur la politique actuelle à travers ce que ça peut devenir. Et alors, Natacha, vous avez commencé cette table ronde en nous parlant de cet aspect de dystopie qui est très prégnant dans la science-fiction française. Mais bon, avant qu'on dévie un petit peu, le débat sur cet aspect, au contraire, résolument optimiste de la foi en l'être humain, ses capacités résistantes. Est-ce que ça aussi, on en trouve quand même? Est-ce que nos auteurs, bien qu'ils soient à part Ayerdal non français, est-ce qu'on a un courant français aussi qui exprime ce genre de sentiment?
Oui, alors, j'ai commencé par la dystopie, je vais peut-être terminer par l'utopie, parce que quand j'entends Rosa, Paolo, moi je crois qu'aujourd'hui, donc l'utopie, je le rappelle, hein, étymologiquement, c'est utopos, le lieu qui n'existe pas, hein, créé par Thomas More au début, en tant qu'œuvre littéraire, hein, au début du XVIe siècle. Je crois qu'aujourd'hui, l'utopie en tant que telle n'existe pas, si vous voulez, en tant que récit, tout simplement parce qu'elle a intégré la science-fiction. Et chez les auteurs de science-fiction, hein, que ce soit donc des auteurs de science-fiction internationale ou plus précisément chez les Français, il y a toujours un double mouvement, c'est-à-dire à la fois, ben, comme Paolo par exemple, une vision pessimiste parce qu'on va jusqu'à la logique d'un système comme je l'avais dit tout à l'heure, Mais dans le même temps, il y a toujours ce que j'appellerais une mentalité utopiste, c'est-à-dire cette espèce de tentation de l'utopie. Alors même si l'utopie est un lieu qui n'existe pas, on va quand même tenter de créer finalement des mondes, des mentalités qui vont nous tirer vers ça. Parce que c'est un, finalement, c'est un moteur de l'humanité, l'utopie. L'utopie existera toujours parce que c'est le modèle, l'idéal vers lequel on tend. Et par exemple, donc Rosa qui disait, oui, effectivement, on a toujours vécu dans la crise. Bon, aujourd'hui, la crise, elle est médiatisée, mondialisée. Mais si vous regardez l'histoire à différentes échelles, finalement, le monde a toujours vécu des crises, des guerres, bon, des problèmes économiques parce qu'on passait d'un système à un autre, etc. Mais évidemment, depuis le début de l'histoire de l'humanité. Donc, actuellement, on est effectivement dans un, je dirais, dans un univers mondialisé, médiatisé. Donc, forcément, la crise, elle est très présente. Et c'est ce qui fait aussi, je reviens un petit peu à la fin du monde, je crois que c'est vraiment ce qui va attirer aussi la science-fiction vers l'apocalypse. Mais il y a toujours un espoir, même quand vous regardez par exemple le livre de Cormac McCarthy, donc La Route, The Road, qui est un livre très noir, vous avez une lueur d'espoir à la fin qui est portée par les valeurs donc, du père à son enfant. Et pour en revenir justement aux auteurs français, donc j'ai cité tout à l'heure l'ouvrage évidemment de Yann. Mais si on regarde un petit peu plus près un auteur comme Pierre Bordage, par exemple, dans les auteurs contemporains, même si certains, je pense par exemple à L'Ange de l'Abîme, je pense à L'Évangile du Serpent, hein, sa trilogie, et puis Les Chemins de Damas, même si c'est la description d'un monde qui va vers l'Apocalypse, il y a toujours un chemin d'espoir. Soit un chemin d'espoir religieux, soit un chemin d'espoir finalement économique, soit un chemin d'espoir vers les valeurs de l'humanité, mais je pense que c'est toujours présent, même si c'est un petit peu pointilliste, même si c'est un petit peu finalement léger, mais c'est toujours là. C'est vraiment ce que j'appellerais la tentation utopique de la science-fiction, l'alternative qui est toujours présente et qui peut être filiale, par exemple, il y a ce concrétiser, on va dire, un système plus concret dans ce moment.
Paolo, vous voulez commenter?
I'm not sure if it's the utopian temptation of science fiction or maybe the commercial temptation of science fiction.
Je ne suis pas sûre que ce soit la tentation utopique, mais plutôt la tentation pécuniaire.
I had an when I was first starting out as a writer, I was writing short stories that were very, very depressing, and I showed those to an agent.
Et quand j'ai commencé à vraiment écrire, j'ai commencé par des nouvelles qui n'étaient pas du tout optimistes, et je les ai montrées à un agent.
And he said these are really well written.
Et il m'a répondu que ces nouvelles étaient vraiment extrêmement bien écrit.
But if you want to have a career as a novelist, it's a good idea to give the reader some hope, some reason to think that they want to pick up another book of yours.
Mais si tu veux réussir dans ta carrière d'écrivain, tu devrais mettre un petit peu d'espoir ou quelque chose d'un petit peu optimiste qui pourrait donner à ton lecteur l'envie d'acheter ton prochain livre.
And while that's, I mean, you could look at that in a cynical way and say, oh, we all want to make money, fine.
On pourrait voir les choses de manière très, très cynique et se dire, oui, mais on a tous envie d'argent.
I do think that there is some wisdom there, too, which is that a one note, a single note of despair isn't, that there's nothing to hang on to for anyone. And so it's not just about commercialism. There's the human reader needs to have some kind of connection larger than just that blackness.
Mais en même temps, je pense qu'il n'avait pas tout à fait tort, parce que l'humain a besoin d'avoir quelque chose auquel se rapprocher dans des textes extrêmement pessimistes où on n'a aucune solution pour s'en tirer, avoir une lueur d'espoir, avoir une solution. Et quelque chose que le lecteur dans les humains a besoin.
One other thing was that another science fiction writer who we were talking about optimism versus pessimism in science fiction, his name is Ted Chiang.
J'ai discuté longuement sur l'optimisme et le pessimisme
most science fiction is actually quite optimistic because it still has people in it.
Et il m'a fait remarquer que l'essentiel de la science-fiction est en fait optimiste puisque dans ses romans, il y a encore des humains.
Because there's no guarantee that we're going to actually have a narrative at all.
Parce que ce résultat est absolument pas garanti. Nous ne survivrons peut-être pas.
L'optimisme chez André Bon, par contre, c'est qu'il n'y a plus d'êtres humains. André Bon est quand même un grand romancier de science-fiction. Rosa,
je crois que le pessimisme est le plus souvent, tu le trouves plus souvent dans les gens. Dans les gens écrivains. Et lorsque tu es vieux, tu ne peux pas te permettre d'être un peu pessimiste. On doit, et c'est vrai, lorsque tu grandis, tu dois être plus optimiste. Je crois que c'est comme ça.
Il y a le commentaire.
Je ne sais pas, on fait tous le même travail, à peu près dans les mêmes directions. On montre le monde et on fait un travail que la philosophie ne fait plus, c'est-à-dire qu'on se projette un petit peu en amont et on dit, voilà, non pas ce qui va se passer, mais voilà ce à quoi nous allons être confrontés et comment l'humanité va réagir. Et nous travaillons essentiellement sur l'humanité, sur l'être humain, sur l'individu. On ne le fait pas à travers des grands mouvements sociaux ou des fondamentalismes idéologiques, mais on le fait par l'intermédiaire de personnages qui sont confrontés à des situations dans lesquelles... nous espérons que les générations que nous connaissons, nos enfants, n'aient pas à être confrontés. Non, c'est très bien qu'ils vont être confrontés à ça. Et voilà, on y va.
Je ne suis pas sûr que vous soyez restés exactement tout le temps dans les thématiques pures de cette table ronde, mais je crois que grâce à nos quatre auteurs ici présents, ça a nourri beaucoup de réflexions qui étaient passionnantes. La preuve, c'est qu'il y a déjà 4 heures. Ça a passé très très vite. Et je suppose qu'avant de se séparer, qu'on nous fasse les gros yeux là-bas, parce qu'il y a des gens d'après qui est la table ronde suivante qui attend. Mais on a peut-être le temps pour une ou deux questions. Madame s'agite depuis tout à l'heure.
Oui, c'est pas une question d'ailleurs.
Le micro,
c'est une.
Rebondissement. Oui, c'est intéressant de passer de la fin du monde à l'utopie dystopique. Bon, moi, je suis éditrice, donc j'ai le bonheur de publier Alpha Hierbal et Paolo et d'avoir la plus grande admiration pour Rosa Montero et en général ce type de littérature. J'ai pas du tout le sentiment comme éditrice de publier des dystopies. En fait, je ne me situe pas dans cette problématique utopie-dystopie. Je pense qu'à un moment de la littérature, on a effectivement créé des utopies qui étaient un moment d'histoire où l'homme se projetait dans la transformation du monde, c'est-à-dire en fait sa destruction, hein, on sait aujourd'hui. Et on modifiait tout, c'est Boris Vian quand il chantait, et les aspirateurs, et les machines à laver, et cet enthousiasme-là. À un moment donné, c'est sans doute en France, c'est pour ça qu'en France, les belles utopies du 18e et du 19e se sont transformées en dystopies, c'est parce qu'on est dans un pays où la culture politique et les influences des mouvements politiques transformateurs sur la société mondiale ont été à la fois premiers et très lus par les écrivains. Et donc, on est le premier pays, je pense, de la lucidité politique qui alerte à un moment donné le reste du monde en disant « Attention, voilà où on va ». Et ce sont tous ces titres qui ont été cités qui ne sont pas des dystopies, qui sont justement le fait de romanciers plutôt engagés et humanistes qui disent, attention, comme Rosa Montero, on n'a pas le loisir d'abord, non pas d'être optimiste ou pessimiste, mais de ne pas savoir. Aujourd'hui, on dit, ceux qui disent qu'ils ne savaient pas ne pourront plus le dire. Tous les livres l'ont dit avant même les essais politiques, la science-fiction a tout écrit. Des dangers de notre... ce qu'on appelle aujourd'hui le laïc capitalisme. Tout le monde a vu venir la crise du pétrole chez les intellectuels, enfin beaucoup en tout cas, et chez les écrivains. Et les écrivains ont été de SF, je pense qu'ils ont été plus loin que les politiques, parce que eux, comme ils sont capables de mettre en alchimie à la fois les sentiments, les émotions, l'histoire, la science, la politique, ils ont mis tout ça en fiche dans leur imaginaire et ils nous ont livré plutôt que les autres les impasses politiques d'un système. Et aujourd'hui, moi, publiant des textes qui peuvent, qui sont souvent d'ailleurs en librairie, et on me dit souvent, ah, vos livres sont terribles, les livres que vous publiez. Et je dis, mais... Et les gens qui me disent ça sont des gens qui, en fait, peinent à faire le constat du monde qu'ils ont sous les yeux très souvent, à regarder, à voir leurs voisins qui sont malheureux, à voir le quart-monde sous nos pieds. Et donc, je pense, moi, que ces livres dits pessimistes sont les livres les plus optimistes du moment. Pourquoi ? Parce que c'est ceux qui nous offrent à la fois la lucidité qui est absolument nécessaire si nous voulons seulement faire un monde différent, qui ne sera pas celui des fourmis, parce qu'effectivement, l'humain est le pire fléau de la planète. Et d'autre part, là où réside la capacité d'utopie, ce n'est pas dans les histoires, c'est dans les personnages qu'ils vont donner. Je crois que ce qui est très important dans la SF qui se lève avec des auteurs en France, à partir de Lehmann, Ayerdal, Bordage, avec Paolo, avec Rosa, avec tous ces auteurs, et ça vient de loin, et ça vient de la littérature américaine, c'est le héros. Le héros dans ces écrivains de SF n'est pas du tout le héros mythique, l'espèce de héros qui vous détourne de vos frustrations. Il est l'humain, et là je pense à Bordage évidemment, et merci d'avoir cité, mais je pense à tous les personnages de LGBT qui sont tous des humains à qui on pourrait vouloir ressembler dans Rainbow, ou à Naylor dans Shipbreaker. Ce sont des humains à qui on aimerait ressembler, parce que si on est des humains comme ça, alors nous sauvons le monde. C'est la leçon de Damas. Et si le livre d'Ayerdal, pour moi, c'est pas du tout un livre qui plaide pour le droit d'ingérence, au contraire, puisqu'il est plus ouvert que Parleur et les chroniques d'un vampire, parce qu'il ne vit pas dans un bain de sang, mais c'est un livre qui montre l'échec de l'ingérence. Puisqu'on sait très bien qu'on va vers l'échec et que quand on est à la fin du livre, finalement, on recommence dans la politique telle qu'elle est. Ce qui a été profondément transformé, c'est que des humains, à un moment donné, ont fait l'expérience et ont montré aux autres. Et c'est ça la leçon de la Commune de Paris historique et éternelle, qui durera encore dans des siècles, c'est que si les humains se lèvent, stand up, ils peuvent. Et qu'il s'agit d'abord de modifier soi-même pour pouvoir modifier le monde, et c'est la même leçon de Bordage. C'est juste ce que je voulais dire, parce que notre débat était tellement magnifique que
Merci beaucoup Marion Mazzori, qui est créatrice du Diable au Vert, grâce à qui ils vont lire les beaux textes de Paolo Bacigalupi et de Yann Ayerdal. Et qui en même temps a spoilé la fin pour ceux qui n'avaient pas lu encore Rainbow Warriors. Oui, c'est l'éditrice à tous les droits. Oui. Sinon, une question ? Non, oui.
Mais justement, comme disait Rosa, le fait que la vie soit toujours, on doit se battre pour la gagner et tout, est-ce que ce serait pas une utopie juste de faire la fin du monde, que la mort soit beaucoup plus tranquille que la vie, justement ?
Non, la mort, c'est quelque chose absolument important dans la vie, c'est vrai. Et si nous n'apprenons pas à avoir quelques relations sereines, sereines avec la vie, on ne pourrait pas apprendre à vivre. Donc, nous vivons sans voir la mort. Hein? Et ça, c'est mal. Je crois que ça, c'est pas bien. On doit apprendre à avoir une relation, quand je le dis, avec la mort pour vivre bien. Mais l'utopie, c'est pas jamais la mort. La mort n'existe pas pendant la vie. Vous voyez, on doit. Et en plus, je crois que je suis contraire. Si tu me demandes maintenant sur l'utopie, je suis contraire à les utopies parce que je crois que dans le nom de les utopies, comme système bleu fermé, l'humanité a fait beaucoup de carnage. Et donc, je suis plus favorable à le principe moral et à la empathie. Mais le système fermé comme les utopies, comme système idéologique, je l'ai un peu de peur de lui.
Je crois que ça va être Rosa et Maud de conclusion de cette table ronde, parce que là, ça y est, on fait définitivement les gros yeux maintenant. Donc, merci à tous pour nous avoir écoutés.
Merci.